Léon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. J'ai fait la campagne d'Égypte. Je me souviens que nous avons perdu là-bas une partie de notre âme.
Sévices sexuels, décapitation, exécution sommaire. La campagne d'Égypte fut le théâtre de violences guerrières inouïes. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on en a retenu. Aujourd'hui, ce périple napoléonien est avant tout associé à une expédition scientifique inédite qui fut préparée par Gustave Monge.
C'est magnifique. Nous emmenons le tiers, ou presque, de l'Institut. Des géomètres, des chimistes, des mécaniciens, des architectes, un minéralogiste, un géographe, un botaniste, les dessinateurs ne manquent pas, même le fameux vivant de nom. Nous aurons tout, y compris des musiciens et un poète.
Jamais une telle expédition n'avait eu lieu. Une caravane du savoir dans l'esprit des Lumières. Apprendre à mieux connaître le monde. Bonaparte n'y était pas insensible, bien au contraire. Mais son ambition première se jouait ailleurs. Napoléon était en quête d'un trésor.
Le prestige d'Alexandre le Grand.
Imiter Alexandre pour accroître sa gloire et augmenter son aura et qui sait, s'emparer du pouvoir. L'affaire fut menée d'une main de maître, même si la réalité de cette guerre coloniale fut d'une grande cruauté.
La gloire fut entachée de barbarie.
Or, on ne s'en souvient pas, car ce fut une manipulation de haute volée. À son retour d'Égypte, Bonaparte fut le général victorieux au pays des pharaons. Et un mois seulement après son retour du Caire, le petit caporal dirigeait la France.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 4. Au pied des pyramides, une campagne de propagande.
I francesi! I francesi!
Madonna! La bataille de Rivoli. Le pont d'Arcole. Le traité de Campo Formio. Le jeune général Bonaparte est rentré glorieux de sa campagne d'Italie. Dans les mois qui suivent, durant l'hiver 1798, Bonaparte flaire l'air du temps à Paris. Il hésite sur ce qu'il doit faire. Et il prend conseil auprès d'une éminence.
Eh bien, allez-vous-en.
Le facétieux monsieur de Talleyrand.
Oui, la position que vous occupez à l'heure actuelle est bien plus importante encore que vous ne pensez. Fatalement, elle va donc vous créer des ennemis. Vous ne pouvez pas les abattre encore. Non, le fruit n'est pas mûr, encore qu'il soit pourri déjà. La France est rongée par un ver. Ce ver n'est ni Barras ni Sieyès. Il a pour nom la peur. Revenez dans un an.
Que dois-je faire?
Quittez l'Europe. Tenez, allez donc voir en Égypte, si par hasard les Anglais n'y seraient pas.
L'épopée égyptienne fut donc soufflée à l'oreille de Bonaparte par Talleyrand. Un vieux projet remis sur l'établi.
Le projet d'une expédition en Égypte est assez ancien, il date de l'époque de Louis XV. Il s'agissait alors pour la France de conquérir une colonie alors qu'elle venait de perdre notamment le Canada et une partie de ses territoires en Inde.
Jacques-Olivier Boudon est historien et président de l'Institut Napoléon.
Donc l'Égypte était déjà perçue comme une possible colonie à conquérir, et ce d'autant mieux que l'Égypte qui appartient à l'Empire ottoman, cet Empire ottoman qui est fragile à ce moment-là, paraît comme une proie facile. Et puis on estime que c'est un pays riche. Il y a ce mythe de l'Égypte parcourue par le Nil, cette vallée flamboyante qui fait rêver d'une certaine façon. Et puis il y a une autre raison, c'est que en 1798, on projette un débarquement en Angleterre qui s'avère impossible, et donc Bonaparte, aidé de Talleyrand, qui a beaucoup conversé avec lui sur ce point, vont décider de lancer une expédition en Égypte pour couper la route des Indes aux marchandises anglaises.
Histoire d'affaiblir l'Angleterre, parce que c'est le commerce, évidemment, la route des Indes. Donc couper la route des Indes en prenant l'Égypte pourrait affaiblir l'Angleterre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison politique, Jacques-Olivier Boudon? Est-ce que envoyer Bonaparte un peu loin en Égypte, c'est pas aussi l'éloigner du pouvoir alors qu'on le sent grandir et peut-être potentiellement prédateur du pouvoir? Est-ce que c'est pas une manière aussi de l'éloigner de la France?
Alors c'est une idée qu'on a avancée dès cette époque, c'est-à-dire que le Directoire, voyant ce général qui vient de rentrer auréolé de victoire d'Italie, on aurait voulu l'éloigner, mais en l'éloignant, on risque aussi de faire grandir sa gloire, puisqu'il peut revenir, c'est ce qui va arriver d'ailleurs, il peut revenir conquérant. Donc, sans doute que cette idée est en arrière-plan. Il faut savoir que le Directoire, de toute manière, ne peut se soutenir que grâce à l'appui des militaires. Les généraux ont pris une place très importante dans la France du temps.
Avec l'ambition affichée d'affaiblir l'Angleterre, c'est le 19 mai 1798 que Bonaparte embarque à Toulon, cap sur le port d'Alexandrie.
À Toulon, le général Berthier récapitule pour le général en chef Bonaparte.
Au total, 32 300 hommes. Infanterie, 24 300. Cavalerie, 4 000. Artillerie, 3 000. Non-combattants, 1 000.
Bien.
Alors c'est une armada considérable, plus de 300 navires qui partent d'ailleurs de 5 ports différents, Toulon, Marseille, Gênes, Civitavecchia, donc près de Rome et Ajaccio.
Au départ, personne ne sait où on va, hein.
Au départ, seuls quelques initiés savent que ce sera l'Égypte, mais beaucoup d'officiers, sans doute, ils ont d'ailleurs acheté des ouvrages classiques pour connaître l'Égypte, et notamment l'ouvrage de Volney, qui est l'une des Bibles pour préparer en quelque sorte le voyage. Mais la plupart des soldats ignorent quel est le point final de l'expédition.
On protège le secret pour échapper à l'amiral Nelson et à la flotte anglaise.
Oui, parce que les Anglais ont des espions dans les ports, et si on dévoile la destination, on risque en effet de croiser la flotte de Nelson. Lequel du reste sera plus précoce que Napoléon, puisqu'il va arriver à Alexandrie 2 jours avant la flotte française.
Alors, qui trouve-t-on dans cette armada ?
Alors, dans cette armada, il y a environ 35 000 soldats, dont 2 500 officiers. Il y a des marins, bien entendu, pour faire naviguer tous ces navires. Il y a des femmes. 300 femmes seulement, c'est peu, mais elles sont présentes. Il y a des civils pour l'administration de l'armée, et puis il y a à peu près 170 savants qui ont accompagné cette expédition, qui ont accepté, souvent d'assez jeunes savants d'ailleurs, des élèves de l'école polytechnique par exemple, qui ont été engagés par Monge, qui en est le fondateur. Donc il y a des savants expérimentés comme Monge, Berthollet ou aussi Vivant de Nom, et puis il y a des plus jeunes.
Au départ, c'est pas une mission d'égyptologie. Pourquoi sont-ils là, tous ces savants, auprès de Napoléon Bonaparte?
Ces savants sont présents pour étudier le pays, pour l'étudier sous toutes ses facettes, puisqu'il y a des naturalistes, il y a des géographes, il y a des mathématiciens, des chimistes. Donc ils vont étudier le pays sous toutes ses coutures, si je puis dire. Ils vont beaucoup, bien entendu, étudier les monuments qu'ils découvrent, que ce soit autour du Caire avec les pyramides de Gizeh, mais aussi dans la vallée des rois, puisqu'ils vont remonter avec l'armée du général Deuzer en Haute-Égypte et découvrir tous ces monuments que l'on peut voir encore aujourd'hui, tous ces temples qui les fascinent d'une certaine façon, au point d'ailleurs qu'ils y laissent leurs traces. Et on voit très souvent les noms de ces officiers ou de ces savants français qui ont été inscrits dans la pierre.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
Sable et coquillages !
Sable et coquillages !
Le débarquement à Alexandrie le 1er juillet se fit dans la confusion, mais sans grande résistance. Et le premier mois passé à terre ne dissipa en rien les inquiétudes des civils. Le haut commandement, pressé de déployer ses troupes, de débarquer le matériel, de mettre la flotte à l'abri, d'organiser l'administration civile et de marcher sur le Caire, n'eut pas le temps de s'occuper de la commission des sciences et des arts.
Faites battre le ralliement ! Mais il est fou !
Sans logement, sans rations alimentaires, livrés à eux-mêmes dans les ruelles grouillantes d'Alexandrie, les ingénieurs se sentirent comme des enfants perdus.
D'autant plus paumés que Bonaparte arrive au Caire à la tête d'une armée républicaine.
Formez les carrés !
Dont la première mission n'est pas la science, non.
Ces gens-là viennent pour vous aider. Tiens, lis.
Depuis trop longtemps, sur un massif d'esclaves mamelouks terrorise la plus belle partie du monde.
Napoléon se veut avant tout libérateur.
Peuple de l'Égypte, on vous dira que je viens détruire votre religion. Lis !
Ne le croyez pas. Répondez que je viens...
Restituer vos droits, punir les usurpateurs.
Qui sont les usurpateurs ? Bonaparte est venu mettre fin à l'oppression des mamelouks sur le peuple égyptien. Mais qui sont-ils, ces mamelouks ?
Alors ces mamelouks, ce sont des caucasiens, ce sont d'anciens esclaves qui viennent donc du Caucase, qui à l'origine sont chrétiens, des géorgiens, des arméniens, des abkhaziens, qui ont été vendus en Égypte et qui vont former cette armée qui est dominée par des chefs, eux-mêmes originaires du Caucase, ce que l'on appelle les beys, ils sont 24, ce sont de grands propriétaires terriens, ils tiennent le pouvoir, et pour Bonaparte, finalement, et pour les Égyptiens, ils sont considérés comme des étrangers, même s'ils ont été convertis à l'islam, et Bonaparte va en jouer en expliquant aux Égyptiens, dans les proclamations qu'il leur adresse, qu'en fait ils sont sous la tutelle d'éléments étrangers et qu'il va les libérer de cette tutelle.
Alors Bonaparte les affronte le 21 juillet 1798 dans ce qui va devenir la bataille des pyramides. Une victoire écrasante, très rapide de l'armée napoléonienne sur les Mamelouks. On dit, Jacques-Olivier Boudon, que c'est à ce moment-là qu'il aurait prononcé du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemple.
Soldats, soldats, vaillants, intrépides.
Soldats, soldats, vaillants, intrépides.
Vous nous offrez un fier exemple.
Fier exemple, fier exemple.
Du haut de ces pyramides.
Du haut de ces pyramides.
40 siècles vous contemple.
Nous contemple.
Du haut de ces pyramides.
Apocryphe ou réelle, cette phrase prononcée par Bonaparte ?
D'après Vivant Denon, il a prononcé une phrase qui est à peu près équivalente. Alors, on n'en conserve pas la trace absolument certaine, mais il est fort probable qu'il l'ait prononcée. Elle est tout à fait dans son style et dans cette façon aussi de se référer à l'histoire. Lorsqu'il arrive à Alexandrie, il rappelle que la ville a été fondée par Alexandre. Donc, c'est tout à fait probable. Et cette bataille, il va savoir finalement aussi montrer en quoi elle est décisive. On va la désigner sous le nom de bataille des pyramides, rien que cela renvoie précisément à ce mythe de l'Égypte pharaonique.
Prenons le temps d'une halte au musée du Louvre.
Le musée du Louvre procède ces jours-ci à la réouverture de plusieurs grandes salles qui avaient été fermées pour permettre une meilleure présentation des œuvres d'art qu'elles contiennent.
Un tableau de Léon Cogniet, peinte en 1835, résume très bien les premières semaines de cette campagne d'Égypte. Premières semaines qui se sont déroulées sous les meilleurs auspices. Bonaparte a battu les Mamelouks, les savants commencent à explorer le pays et les valeurs de la République rayonnent jusqu'au Moyen-Orient. Alors que raconte ce tableau intitulé « L'expédition d'Égypte » ?
Alors, je dirais que dans ce tableau, tout est dit.
Vincent Rondeau est égyptologue et directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre.
Alors, donc, on est obligé de pencher là, notre tête parce que c'est...
Voilà, en arrière, il faut... Alors, déjà, du point de vue de la peinture, les dimensions, monsieur Appu, c'est 6 mètres par 4, enfin, c'est très grand. Mais, vous voyez, dans le médaillon, le portrait de Bonaparte ici, il y a des armes mamelouks là pour célébrer la victoire. En tout cas, voilà, vous avez cette scène étonnante, qui a été peinte donc par Léon Cogniet, et ça représente donc le général Bonaparte sous un campement militaire. Vous voyez que cette tente improvisée est tenue par des lances. On est dans le désert, on est sur la corniche du toit d'un temple pharaonique. Vous voyez cette fameuse corniche égyptienne. Sur la droite, on voit une armée qui soulève le sable en avançant au pas. Et puis, sur la droite encore et vers l'horizon, on voit deux statues colossales, gigantesques, qui ferment l'horizon et qui sont un des détails les plus étonnants de ce tableau, puisque ce sont les statues d'Amenophis III devant son temple à Thèbes, dont l'une d'elles est appelée le colosse de même nom, celle qui, selon la tradition, chantait au lever du jour, puisqu'il était le fils de l'aurore.
Alors, ce qu'on voit aussi, c'est au premier plan un personnage qui a l'air d'être égyptien.
Oui.
Il est habillé comme un égyptien et il est côte à côte avec un soldat napoléonien, oui. Et ils ont l'air de se côtoyer en toute... intelligence.
Intelligence, exactement. Eh ben, c'est exactement cette ambition civilisatrice, telle qu'annoncée par Bonaparte, par l'Égypte de la Révolution, qui prétend libérer les peuples. Il faut se demander si les chaînes que l'on voit ici, à cette figure très académique d'un homme nu comme un paysan épuisé, là, qui paraît être libéré de ses chaînes, ça fait partie de la même symbolique, à mon avis. Il y en a une qui, à mon sens, est peut-être la plus importante. C'est, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. C'est le personnage de cette femme-là, qui porte sa cruche sur la tête et qui a une cruche sur la main.
Elle est habillée de voile bleu, quasi transparent.
Alors, ça moule son corps. Ce n'est pas transparent. C'est une toile de paysanne, de robe de paysanne.
Mais on distingue quand même son corps.
On distingue très bien son corps. Les femmes n'ont pas du tout la pudeur que l'on connaît dans la vallée du Nil aujourd'hui. Ça faisait beaucoup rire les savants de l'expédition. C'est quand elles voyaient apparaître un homme, et un étranger encore plus, elles soulevaient leur blouse pour se cacher le visage et du coup dégageaient leur sein. Et ça sidérait les soldats, c'était un objet d'étonnement. Et du coup, cette femme, en effet, avec cette beauté orientale, si on peut le dire de cette façon-là, qui correspond à une idée qu'on se fait du corps
de
l'oriental, elle est là pour symboliser ça, certainement, pour le représenter, mais aussi pour camper le portrait de la femme égyptienne. C'est ni une déesse, ni Cléopâtre, ni une reine, ni un. Non, c'est une paysanne égyptienne qui revient du Nil où elle est allée chercher l'eau. Et cette femme égyptienne, avec cette noblesse du port de tête, parce qu'elle marche très droite avec la cruche sur ses yeux, etc., est devenue très vite une allégorie du pays tout entier.
Et on peut la retrouver sur d'autres tableaux.
Absolument. Et je vais vous dire, on la retrouve d'autant plus que Bartholdi, qui proposera au gouvernement égyptien au moment de l'inauguration du canal de Suez la réalisation d'une statue monumentale, d'une statue phare à l'entrée du canal, de l'Égypte éclairant l'Orient, c'est-à-dire une femme tenant haut un flambeau, il propose cette paysanne comme figure d'incarnation de cette Égypte qui éclaire l'Orient de la lumière de sa civilisation, de son antiquité, etc., etc. Le Khédive trouve ça trop cher, ne donne pas suite au projet. Bartholdi change son fusil d'épaule et réussit à faire le statut de la liberté à New York, qui est directement la deuxième épure de son premier projet, qui est sous nos yeux dans ce tableau, espèce de beauté immémorielle comme ça. Elle a des traits presque pharaoniques, vous voyez, dans son visage.
La statue mesure, des pieds à la torche, 45,30 m. La main de la statue de la liberté mesure 4,80 m. L'index de la main gauche, 2,40 m. Le nez, 1,20 m. Et sur le piédestal est gravé un poème d'Emma Lazarus. Donnez-moi vos épuisés, vos pauvres, vos masses entassées, désirant respirer la liberté. Ici Pierre Clanès à New York, à vous Paris.
Mission civilisatrice. Victoire dans la bataille des pyramides, exploration scientifique du pays. En effet, jusqu'ici, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, arrive le 1er août 1798.
Le journal, Alain Barbeau.
Au large d'Alexandrie, des plongeurs français, eux aussi, fouillent la mer. Ils vont tenter de renflouer l'Orient, le navire amiral de la flotte française qui amenait Napoléon lors de son expédition en Égypte et qui avait été écoulé dans la baie d'Aboukir en 1878 par les navires de l'amiral Nelson. Non, apparemment, je me trompe sur la date. Ce n'est pas 1878. Je n'ai pas la date exacte de ce navire lorsqu'il a coulé dans la baie d'Aboukir.
Donc, je redonne la date. Le 1er août 1798, l'amiral Nelson a coulé la flotte française. Les Anglais sont venus gripper la machine napoléonienne en rade d'aboukir. Avec ses navires coulés, l'armée française est piégée en Égypte. Elle ne peut plus rentrer.
Soit. Nous voici dans l'obligation de faire de grandes choses. Nous les ferons. Nous fonder un grand empire. Nous le fonderons.
Bonaparte cherche alors à motiver ses troupes.
L'Égypte a rayonné plus d'une fois dans l'histoire. Les anciens, d'Alexandre à César, y ont trouvé une gloire immortelle. Et vous serez fiers bientôt d'avoir fait renaître une nation que le monde vous jalousera. Une nation que le monde vous jalousera. Que le monde vous enviera.
Mais très vite, la campagne s'enlise. La greffe ne prend pas avec les populations locales.
Moi, bal français. Comment va le petit?
Va te faire foutre.
Merci, monsieur. Toi aussi.
D'abord, dans un premier temps, en effet, il y a eu des combats contre les Mamelouks, c'est-à-dire une armée organisée, qui n'est pas organisée comme l'armée française, mais qui est une armée classique, si je puis dire. Et puis, il y a aussi une résistance que l'on voit s'opérer dans le pays, en particulier dans le Delta, résistance de la part de ceux que l'on appelle les Arabes, c'est-à-dire des nomades du désert, qui vont harceler les troupes françaises. Il n'y a pas de combat face à face, en quelque sorte, mais c'est un harcèlement permanent qui gêne la progression des troupes. Et ces Arabes sont très souvent soutenus par la population, donc qui va se mobiliser partiellement contre l'occupation française. Il y a aussi au Caire, dès le mois d'octobre, une résistance qui vient là, cette fois-ci, de la population du Caire, dans un contexte qui est celui de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman contre la France, et dans un contexte qu'on peut qualifier de guerre sainte.
Vive la guerre sainte !
Bonjour !
Le général Dupuy est mort.
Au secours ! Ils bombardent la Nar ! Cheikh Hassouna, ils bombardent la Nar !
Ils disent respecter l'islam, et ils le frappent en plein cœur.
C'est le djihad, finalement, auquel ont appelé les oulémas contre les Français. Et cela va se traduire, évidemment, par une rupture du lien que Bonaparte avait essayé de tisser avec les notables égyptiens, puisque, même si ensuite il tente de le recomposer, finalement, la greffe ne prendra pas.
Et avec déjà des pratiques d'ultra-violence, Jacques-Olivier Boudon, c'est-à-dire que cette guerre asymétrique, elle sous-entend une sorte d'escalade de la terreur, en réalité, sur le terrain.
Alors les troupes françaises sont assez surprises de voir les méthodes de combat des Égyptiens, des Arabes en particulier, avec des sévices sexuels dont ils sont les témoins, donc des prisonniers qui sont sodomisés par exemple. C'est assez fréquent et évidemment cela surprend, mais il y a aussi une pratique qui est assez classique, les troupes égyptiennes décapitent les soldats qui ont été tués ou même simplement blessés parce que la tête est en quelque sorte un trophée. Mais la violence va être aussi de l'autre côté, au point d'ailleurs que les soldats français vont eux aussi se mettre, dans certains cas, à décapiter leur adversaire. C'est une façon aussi de terroriser l'adversaire et de démontrer que finalement l'armée française peut se comporter comme le font les Égyptiens.
En septembre 1798, l'Empire ottoman est donc entré en guerre contre la France. Car précisons qu'à l'époque, l'Égypte appartenait aux Ottomans, qui ont voulu chasser les Français de la région. Mais Bonaparte anticipe leur attaque et se lance à la conquête de la Syrie, au nord de l'Égypte. Une campagne qui s'enlise alors dans l'ultra-violence guerrière, notamment à Jaffa, en mars 1799.
Alors, la prise de Jaffa s'est faite après des combats eux-mêmes acharnés. Et ce qui a été reproché à la population de Jaffa et à la garnison, c'est de contenir des soldats qui avaient été faits prisonniers quelque temps plus tôt à Gaza, donc la ville précédente, et qui aurait dû ne pas repartir au combat. Or, ils sont entrés dans cette guerre contre les Français à nouveau. Donc, ça va provoquer la mise à sac de la ville de Jaffa, c'est-à-dire qu'à la fois les soldats, mais aussi les civils, femmes et enfants compris, sont tués, les femmes violées. Et là, les descriptions sont véritablement abominables.
Le tumulte du carnage, les portes brisées, les maisons ébranlées par le bruit du feu et des armes, les hurlements des femmes, le père et l'enfant culbutés l'un sur l'autre, la fille violée sur le cadavre de sa mère, la fumée des morts grillée par leurs vêtements, l'odeur du sang, les gémissements des blessés.
Tous ont témoigné de l'horreur des scènes auxquelles, naturellement, ils ont aussi participé, mais lorsqu'ils racontent, ils se démarquent des scènes auxquelles ils ont assisté.
Le lendemain, je fus envoyé pour tenter de rétablir l'ordre et faire cesser les excès auxquels le soldat se livre toujours en pareil cas. C'était la première fois que je voyais une ville prise d'assaut, et ce spectacle me frappa d'horreur. Presque tous les habitants avaient été égorgés sans distinction d'âge ni de sexe. La terre était jonchée de leurs cadavres. Le sang ruisselait dans les rues.
Par exemple, Étienne Louis Malus, qui est un mathématicien, on trouve des extraits dans votre livre de témoignages. Il raconte ce qu'il voit sur la page de Jaffa. C'est assez effroyable, Jacques-Olivier Boudon.
Oui, il y a des savants aussi qui ont participé à la campagne de Syrie, donc ils sont présents. Il raconte aussi le fait qu'on ait fait fusiller les prisonniers de guerre, ce qui est inhabituel. Le droit de la guerre qui s'est développé au cours du XVIIIe siècle fait qu'en principe, on ne met pas à mort les prisonniers de guerre. Mais là, faute de pouvoir finalement les renvoyer en Égypte, on les met à mort. Et c'est un des reproches qui sera fait à Bonaparte, notamment par la propagande anglaise qui va dénoncer cet acte. Et puis à Jaffa aussi, la peste va se diffuser, en particulier parce que la ville est jonchée de cadavres, ce qui va accélérer l'essor d'une épidémie qui est déjà présente de manière endémique.
Soldats de l'armée française, la perfidie de vos chefs vous impose une guerre qui n'est pas la vôtre. Retournez dans vos foyers. En somme, les Anglais appellent mes hommes à déserter en inondant nos lignes de ces petits torchons. Ça n'a aucun effet sur eux.
Je n'en suis pas si sûr. Les hommes ont les nerfs à vif. La plupart du temps, il faut les forcer à obéir.
Que leurs officiers la reprennent en main, ils sont là pour ça.
Les officiers, ils disent que tu es le bourreau de tes soldats. Que jamais tu ne seras en mesure de faire la conquête de l'Égypte.
Mais c'est déjà fait, Murat. L'Égypte est à nous, enfin presque. Le Caire est une ville française, le détat du Nil a été pacifié. Il ne reste plus que quelques régiments turcs et une poignée de tribus arabes à soumettre.
Les Turcs et des Arabes sont protégés par les Anglais. Mais sois lucide, Bonaparte. Tu dois t'arrêter. Tu oublies que nous, on a la peste à nos trousses.
Les docteurs m'assurent que l'épidémie pourra être contenue.
Les docteurs, ils ne peuvent rien contre la peur.
L'armée de Bonaparte est donc décimée par la peste et les populations musulmanes s'insurgent contre l'occupation française de leur territoire. Et pourtant, Bonaparte était arrivé plein de bonnes intentions.
Bonaparte est fasciné par l'islam, et ça sera vrai par la suite aussi, puisque à Sainte-Hélène, il revient à plusieurs reprises sur l'islam, sur Mahomet. Il est admiratif de voir cette religion qui s'est répandue à travers le monde. Et donc, dès qu'il arrive en Égypte, il se concilie avec les notables musulmans. Il va organiser l'anniversaire de Mahomet au mois d'août. Donc, il multiplie les gestes, laissant entendre qu'il est favorable à l'islam, à la liberté religieuse. Une des premières proclamations qu'il adresse aux Égyptiens et même à ses soldats est en faveur du respect de la tolérance à l'égard de l'islam et aussi à l'égard des femmes égyptiennes. Donc tout cela est vrai, mais cela n'empêche pas les débordements, les violences que l'on a évoquées.
Messieurs, j'ai demandé au président de notre institut, notre savant collègue M. Monge, que notre réunion se tienne exceptionnellement ici, pour admirer comment, grâce au génie français, un rêve se transforme en réalité, qui elle-même, à son tour, métamorphosera le monde entier.
Si la campagne militaire en Égypte est un désastre, qu'en est-il de l'expédition scientifique ?
C'est surtout ce que l'on a retenu, finalement, de la campagne d'Égypte. On a oublié les violences, le caractère extrêmement radical de la guerre qui a été menée, au point d'ailleurs que souvent on parle d'expédition d'Égypte plutôt que de campagne d'Égypte. Alors que moi je préfère le terme de campagne pour rappeler que c'est d'abord une campagne militaire et une campagne qui a connu aussi ces violences. Alors l'expédition scientifique, elle est de grande importance, 170 savants de toutes origines qui vont être regroupés avec du reste un certain nombre d'officiers qui sont aussi des savants. Je pense à Caffarelli par exemple, le général Caffarelli. Ils sont regroupés au sein d'un institut d'Égypte qui commence à fonctionner à partir d'août, de la fin du mois d'août 1798, et qui va conduire des expériences, des explorations de toutes sortes pour étudier à la fois la faune, la flore, les pierres que l'on trouve en Égypte. Monge va étudier le phénomène des mirages, par exemple. On va beaucoup travailler sur la question des problèmes ophtalmiques qui atteignent beaucoup de soldats. Il y a beaucoup de soldats qui, à cause de la réverbération du soleil, deviennent aveugles. Donc on étudie ces questions aussi à caractère, je dirais, médical. On va bien entendu découvrir les monuments, tirer des plans, observer comment ils sont organisés. Bref, tous ces éléments vont être rapportés en France. La plupart de ces savants, à quelques exceptions près, font partie de l'expédition jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent en France qu'à la fin du mois d'août 1801, et ils obtiennent le droit de rentrer en France avec les objets qu'ils ont pu acquérir ou qu'ils ont pu trouver sur le terrain. Alors ça peut être des objets archéologiques, ça peut être aussi des oiseaux empaillés ou que sais-je, ou des collections de plantes. Ils ont droit de rentrer en France, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui en France, dans un certain nombre de musées, on retrouve ces collections. Je pense par exemple au musée de Bertrand à Châteauroux. Le général Bertrand est rentré avec ces objets.
Retournons au Louvre, voir Vincent Rondeau. Que doit le musée des musées à l'expédition d'Égypte ?
L'expédition d'Égypte n'a rien rapporté. Pour plusieurs raisons, c'est qu'ils n'avaient pas le temps, parce que pour rapporter des choses, il faut pouvoir les fouiller, les stocker, etc. En Égypte, on est vite confronté au monumental. Les choses magnifiques peuvent avoir des tailles d'amulettes comme des tailles de colosses. Du coup, il n'y a pas eu d'objets ramenés par l'expédition de Bonaparte. D'autant moins que les Anglais ont tout saisi.
Donc, il ne rapporte quasiment rien ?
Disons qu'il rapporte, mais vous savez, les choses qu'on trouve par terre, qu'ils peuvent mettre dans leur poche, littéralement, ou dans leur bagage, un ouchepti ou un petit bout de statuette, il suffit de faire ça, vous voyez, dans le sable avec votre botte, et il y a des...
Des tessons, un
éclat de calcaire avec des inscriptions dessus, enfin, etc., et qu'ils ont littéralement mis dans leur poche, et... Il faut imaginer comment les savants ont quitté, et les soldats d'ailleurs, le pays dépossédé de tout, la queue basse, après des négociations très longues avec les Anglais pour ne pas laisser leurs documents scientifiques.
Ils n'ont pas tout ramené, puisque, prenons un exemple illustre, la pierre de Rosette a été découverte par l'armée française en Égypte, mais elle a dû être confisquée par l'armée anglaise. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu tout ramener ce qu'on avait trouvé, Jacques-Olivier Boudon.
En effet, parce que n'ont pu être ramenés que les objets qui étaient considérés comme propriété privée. Or, la pierre de Rosette, qui avait été confiée au général Menou, qui était le commandant en chef de l'armée, considérée comme une propriété nationale, et les Anglais vont donc la conserver, et on sait qu'aujourd'hui encore, elle est au British Museum.
C'est en août 1799 qu'un officier de Bonaparte trouve à Rosette une stèle datant de 196 avant Jésus-Christ, où est gravé le texte d'un même décret en grec, en démotique et en hiéroglyphe.
L'objet qui faisait partie du butin, si on peut l'appeler comme ça, de l'expédition de Bonaparte, c'est la pierre de Rosette. Qui a été trouvé par un officier du génie qui avait été chargé de réaménager un fort en place forte défensive pour l'armée française. Et qui, en creusant dans une redoute pour installer tel ou tel dispositif, est tombé sur ce bloc de pierre, lui-même réutilisé dans cette construction pas très ancienne, ce fort pas très ancien mais déjà en ruine, et il a découvert que c'était couvert de hiéroglyphes. Et pas que d'hiéroglyphes, de grec et de démotique, c'est-à-dire la cursive des hiéroglyphes. Donc il y avait trois écritures et deux langues.
Ça l'a intrigué.
Ça l'a intrigué, il a prévenu ses supérieurs. Pour vous dire comment les esprits à l'époque sont prêts à la découverte, et on a commencé à faire des copies. Et de cette façon, si vous voulez, ce texte bilingue a été très rapidement diffusé et a joué son rôle internationalement, et pas uniquement du côté français, bien sûr, a joué son rôle dans le déchiffrement des hiéroglyphes.
Où en sommes-nous à l'été 1799 ? Après la mésaventure syrienne, Bonaparte est revenu au Caire. Ça fait un an qu'il a posé le pied en Égypte et, conscient de son échec, le voilà seul face à son destin.
Alors Bonaparte rentre en effet de la campagne de Syrie vaincu, mais il fera en sorte que cela ne se sache pas. Le grand art de Napoléon, c'est de communiquer. Et quand il y a des échecs, il ne communique pas sur les échecs. Et dans la presse de l'époque en France, on ne trouve pas mention des échecs de la campagne de Syrie. En revanche, après avoir vaincu les Ottomans qui ont débarqué dans la presqu'île d'Aboukir en juillet 1799, il va faire savoir qu'il a remporté cette grande victoire face aux Ottomans. Et puis, il se dit que finalement, il a assez vu ce qui se passait en Égypte et il décide, au mois d'août, de regagner l'Europe. Il a été informé par les Anglais de la situation en Europe où la France est encerclée sur le plan militaire. Et donc, il décide de rentrer avec quelques-uns de ses compagnons. Il abandonne son armée derrière lui, sous le commandement du général Kléber, avec du reste des ordres pas très clairs, soit négocier avec les Ottomans, soit conserver la colonie. Et puis il décide de partir avec ses principaux compagnons qui vont l'accompagner dans ce retour vers l'Europe.
Il embarque avec quelques généraux fidèles sur les deux frégates vénitiennes et après avoir été quelque temps encalminé sur les côtes de Cyrénaïque, il peut faire route au large des côtes tunisiennes, puis, après une courte escale à Ajaccio, il mouille devant Fréjus et, négligeant la quarantaine, débarque jour pour jour, un mois avant le 18 Beauvais.
On vient d'apporter une dépêche pour Madame Bonaparte.
Bonaparte vient de débarquer à Fréjus.
Il aurait quitté son armée?
Il débarque à Fréjus le 9 octobre 1799. Là, que se passe-t-il, Jacques-Olivier Boudon ? Il est acclamé, Bonaparte. C'est un triomphe, en réalité.
Il est acclamé parce qu'il est précédé de cette image du général vainqueur. C'est le vainqueur des pyramides. Cela, on l'a largement mis en avant. C'est le vainqueur d'Aboukir. L'annonce de la victoire d'Aboukir est arrivée 2 ou 3 jours plus tôt. Il va d'ailleurs braver la quarantaine qu'il aurait dû s'imposer puisqu'il arrive d'Orient où la peste sévit. Et il part en direction de Paris où il va être tout au long de la route acclamé. En effet, la nouvelle de son arrivée interrompt les représentations théâtrales, par exemple. Donc il y a un véritable enthousiasme dans un pays qui est finalement marqué à la fois par le péril militaire, même si les armées de la République ont déjà repoussé leurs adversaires, et aussi par une crise politique qui est majeure.
Joseph,
tu les entends? Tu entends ça un peu?
Tu n'as qu'un seul mot à dire, et tu auras 25 millions de Français qui seront disposés à te suivre.
Pour l'instant, j'ai faim.
Cette ovation qu'ils t'ont faite, elle n'est rien en comparaison de l'accueil qu'ils te réservent à Paris. Le pouvoir est un fruit mûr. Tu n'as qu'à tendre la main pour le cueillir.
Dans une France chahutée, qui se cherche un héros, une stabilité et un retour à l'ordre, Bonaparte apparaît comme l'homme providentiel. Et un mois après son retour d'Égypte, il s'est emparé du pouvoir. Peut-on y voir un lien ?
Incontestablement, il s'appuie sur les succès militaires qu'il a remportés, en particulier ceux qu'il a remportés en Égypte. La chose n'allait pas de soi, parce qu'en réalité, le coup d'État du 18-19 Brumaire est d'abord un coup d'État parlementaire qui aurait dû bénéficier aux principaux instigateurs que sont Sieyès et Roger Ducos. Bonaparte, à l'origine, n'est qu'un général qui doit prêter main forte, qui doit apporter la caution de l'armée à la conspiration. Et puis, d'une certaine manière, mais cela, il l'a déjà préparé en amont par les contacts qu'il a pris à la fois avec les milieux politiques, les idéologues, les jacobins, avec les milieux militaires. Il s'est entendu avec un grand nombre d'entre eux et même avec les milieux financiers. Je pense en particulier, par exemple, au banquier Perregaux, dont la fille a épousé l'un des tout proches de Napoléon, qui est Marmont. Donc, ces préparatifs montrent que Bonaparte ne se contentera pas d'être un supplétif au moment du coup d'État qui aurait d'ailleurs pu basculer puisqu'il a commis quelques maladresses, mais il est clair que lorsqu'il arrive à Saint-Cloud, il a déjà en tête l'idée de s'emparer du pouvoir.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Il nous faut donc un gouvernement provisoire qui prenne l'autorité le jour même de la translation au palais de Saint-Cloud, où ce gouvernement ira siéger.
Pourquoi Saint-Cloud ?
Je préfère un beau parc fermé par mes dragons qu'un faubourg ouvert au désordre.
Occupez-vous de cette translation à Saint-Cloud et de l'établissement simultané d'un gouvernement provisoire. J'approuve que ce gouvernement soit réduit à 3 personnes. Et puisqu'on le juge nécessaire, je consens à être l'un des 3 consuls provisoires avec vous et votre collègue Roger Ducos.
Est-ce que vous diriez, Jacques-Olivier Boudon, que cette campagne d'Égypte est un désastre militaire, mais un triomphe médiatique ? Est-ce que finalement, il n'a jamais été aussi fort en propagande que sur cette campagne-là, Napoléon Bonaparte ?
La campagne d'Égypte est un modèle de propagande, à la fois parce qu'il ne dit pas ce qu'il n'a pas envie qu'on sache, et parce qu'il va mettre l'accent sur les principales victoires. Et naturellement, on va omettre de décrire les combats de rue, dans le Caire par exemple. On va s'appuyer uniquement sur les grandes batailles. C'est une campagne qu'il va valoriser, au point d'ailleurs par la suite de renforcer ce courant d'égyptomanie que l'on connaît en France. C'est lui aussi, Bonaparte, qui décide de la mise en chantier de la description d'Égypte, c'est-à-dire le résultat de toutes les recherches qu'on par les savants, qui sera publié à partir de 1809, qui est un monument, en quelque sorte, en l'honneur des découvertes en Égypte. Les voyages des savants français vont se multiplier, et c'est d'ailleurs plutôt à cette époque-là que l'on va s'emparer en Égypte d'un certain nombre de trésors qui sont ensuite ramenés en France.
Hey, regarde ces sarcophages debout contre le mur.
Mais ils sont numérotés. Roglyph, égyptologue. Jacobini, égyptologue. Trentin, égyptologue. Ah, mais les voilà tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Khiosk. Les malheureux.
L'expédition d'Égypte, l'expédition de Bonaparte, est le coup d'envoi d'un phénomène scientifique qui va être extrêmement rapide. Et c'est quelque chose ça, qui peut être très intéressant de rappeler aujourd'hui, c'est comment, à la façon d'un barrage qui craque, le mystère, avec un M majuscule, de l'Égypte ancienne est emporté. Il a vécu pendant 2000 ans et il cède sous la pression de la curiosité, sous la pression du savoir et sous la pression de quelqu'un comme Champollion, mais pas seulement. Tout d'un coup, brutalement, en 30 ans, les choses sont faites. La vallée du Nil est visitée jusqu'à Napata et Meroé. C'est un phénomène sidérant à reconsidérer sous cet angle-là. Ça lance l'égyptologie. C'est-à-dire, ce que ça lance, à vrai dire, c'est la familiarité, ou une certaine familiarité, avec l'Égypte ancienne.
Laissons maintenant la parole à Victor Hugo.
Il est partout. Au Nil, je le rencontre encore. L'Égypte resplendit des feux de son aurore. Son astre impérial se lève à l'Orient. Vainqueur, enthousiaste, éclatant de prestige, prodige, il étonna la terre des prodiges. Les vieux cheiks vénéraient l'émir jeune et prudent, le peuple redoutait ses armes inouïes. Sublime, il apparut aux tribus éblouies comme un Mahomet d'Occident.
Une question demeure. La campagne d'Égypte préfigure-t-elle les guerres coloniales du XIXe siècle ? L'Égypte prépare-t-elle l'Algérie ?
Alors, la campagne d'Égypte est une guerre coloniale, d'une certaine façon, puisque c'est une conquête d'un territoire que les Français envisagent de conserver. Ce n'est pas simplement une volonté de faire barrage au commerce anglais, mais il y a une vraie volonté, et ça sera particulièrement flagrant à partir du moment où le général Menou gouverne l'Égypte. Il y a un projet colonial, incontestablement, même s'il faut rappeler que Menou, qui s'est converti à l'islam, veut aussi faire de cette colonie, finalement, une extension de la France, il évoque les Égyptiens comme des frères. Par ailleurs, un certain nombre des soldats qui ont combattu en Égypte se retrouveront en Algérie dans les années 30. Je pense par exemple au général Savary qui reprend du service au début de la monarchie de Juillet. Et incontestablement, les pratiques de combat, par exemple asymétriques, que l'on a vu se mettre en place en Égypte, seront reproduites dans la conquête de l'Algérie au début des années 30. Alors la campagne d'Égypte est à la fois une rupture et aussi est dans le prolongement de la campagne d'Italie. D'ailleurs, souvent, on entremêle les deux, c'est-à-dire que ces deux campagnes participent de l'édification de l'image d'un général conquérant qui ne manque pas non plus de panache. On a parlé des violences, mais finalement, il se tire bien de ce point de vue-là, de cette guerre asymétrique que l'on a évoquée. Et incontestablement, il rentre en France auréolé de gloire, ce qui va favoriser finalement son ascension par la suite. Mais restons aussi sereins et évitons la téléologie. Il aurait tout aussi bien pu être capturé par les Anglais au retour d'Égypte et on n'en parlerait plus.
En conclusion, Jacques-Olivier Boudon aurait pu ajouter que cette campagne d'Égypte fut un choc entre deux mythes, les anciens pharaons d'un côté et le jeune Napoléon de l'autre. Cette expédition au Moyen-Orient a donc fait basculer Bonaparte dans une autre dimension. Grâce à une habile propagande, il devient l'homme du recours, l'homme providentiel et le petit caporal devient premier consul. Ses ambitions s'assument. Désormais, Bonaparte veut finir la Révolution, autrement dit, la parachever, et réformer la France comme il l'entend.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série réalisée par Violaine Ballet, assistance éditoriale Estelle Gap, documentation sonore Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano. Reportage au Musée du Louvre, Martine Abbat, avec la participation de Nicolas Lormeau de la Comédie-Française. Prochain épisode, Le Grand Réformateur ou L'Empereur de la Rénovation. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, un podcast original de France Inter.